Excusez-nous du retard, François Bunel est un petit peu de mal à se déplacer. Je pense que vous lui pardonnerez, donc il nous rejoindra en cours de route. Comme ça, ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour vous présenter Cécile Coulon. Bonjour.
Bonjour.
Pour votre roman « Seul en sa demeure » paru chez L'Iconoclaste et Marie Vintras pour Blizzard.
Bonjour.
Bonjour, hein, paru chez L'Olivier. Alors, François Bunel vous a qualifié de nouvelle voix. On va voir exactement ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière cet adjectif nouvelle, parce qu'en fait, Cécile Coulon n'est pas du tout nouvelle.
Ah, mais donc je vous remercie de le dire. Parce que moi, la dernière fois que je suis venue ici, le litre d'essence, il était à 1,25€. Donc ça fait vraiment longtemps quand même. Enfin, ça commence à faire 15 ans quand même. Ça tombe bien qu'il soit pas là pour entendre ce que je suis en train de dire. Non, mais
on peut refaire la blague
comprends.
Tout à l'heure.
Je
on peut redonner l'anecdote. Alors d'un côté une primo-romancière et de l'autre c'est vrai une romancière qui a démarré très très tôt. Parce que je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieille, mais que
vous
avez une longue carrière de romancière, d'écrivaine. Nous verrons peut-être en quoi vos voix sont innovantes, modernes, novatrices, même audacieuses. Comment les deux romancières sont en train d'imposer un style inédit qui nous apporte de la fraîcheur sur la scène littéraire française. Et puis, d'essayer de comprendre ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous apprennent aussi sur la société, sur nous-mêmes. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons, nous, lecteurs, écouter leur voix ? Toutes ces questions pour dire qu'il faut désormais compter avec Cécile Coulon et Marie Vintras. Bienvenue. Dans vos deux romans, dans vos deux fictions, le lieu, la topographie a une importance, a beaucoup, beaucoup d'importance. C'est presque un personnage à part entière. On a d'un côté donc une tempête de neige en Alaska chez Marie Vintras, dans Blizzard, de l'autre une maison qui semble hantée, entourée d'arbres, dans le Jura, pour seul en sa demeure. Alors, ma première question, Cécile Coulon, ce sera justement, vous avez pris le temps d'installer à la fois, donc quand Aimée, cette jeune femme, cette jeune épouse, arrive dans sa future demeure, puisque c'est celle de son époux, Candre, c'est un mariage arrangé mais pas forcé, puisque son père lui a quand même demandé son avis. On est à la fin du 19e, début 20e, mais vous ne situez pas exactement l'époque. Et vous prenez le temps de la faire arriver en calèche dans cet endroit qui est presque digne d'un conte, avec les ronces qui se renferment. Et on se dit qu'une fois arrivé là-bas, on n'en repartira jamais.
Oui, je pense que j'ai travaillé ce lieu de Seul en sa demeure, qui est effectivement un domaine dans le Jura, à la fin du 19e siècle, en 1890, pour être exact, même si c'est effectivement pas dit dans le texte. Et en fait, je me suis inspirée d'un lieu qui existe, qui sont les Salines d'Arc-et-Senans, à côté de Besançon. Si vous êtes déjà allé là-bas, vous savez à quel point c'est beau, à quel point c'est mystérieux, à quel point on peut très vite se sentir, surtout si vous y êtes l'hiver, sachant que l'hiver à Besançon, c'est fin août, à peu près. Voilà, que vous y êtes la nuit, et vous passez là, et c'est très beau, mais c'est en même temps extrêmement pesant. Et moi, j'aime ce genre d'endroit. Et il y a 10 ans, je suis allée là-bas et je me suis dit, il faudra à l'avenir que j'écrive un texte qui aura pour décor cet endroit-là, parce qu'il m'a bouleversée le temps que j'y suis passée. Et quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, avant de parler des personnages, avant de parler de Aimée et de Candre et de ce drôle de couple, et d'ailleurs, comme pour tous les romans précédents, il faut que le personnage principal, ce soit la maison, ce soit le climat, ce soit la nuit, et il faut d'abord que les lecteurs et lectrices soient happés par cet endroit avant d'être happés par les personnages.
C'est-à-dire que quand Aimée arrive, elle est finalement déjà mal à l'aise, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, avant même que son couple commence un petit peu à être bancal, elle a cette sensation qui lui colle à la peau, sans ouais. mots. Sans dialogue, que ce sera pas évident. Qu'elle vient de mettre les pieds dans un univers, dans une famille qui est étrange et étouffante.
Oui, parce que je pense qu'elle arrive dans un milieu qui n'est pas tout à fait le sien. Parce qu'elle, elle est d'une famille qui est en train de terminer. On appelle ça, de manière assez vulgaire, les fins de race à ce moment-là. Et elle arrive dans la famille de Candre où lui, il est tout puissant. Et c'est un propriétaire terrien à une époque où la vente et revente de bois pour des guerres à venir va le rendre très riche. Et quand elle arrive, non seulement elle sait qu'elle va devoir se conformer à des codes qui ne sont pas forcément les siens, ou pas tout à fait les siens, mais en plus elle va devoir s'y conformer dans une maison où les quelques personnes qui vivent là n'ont pas du tout envie qu'elle soit là. À savoir la gouvernante qui gère cet endroit, son fils, Henria, et son époux qui ne lui demande pas d'être une maîtresse de maison, qui lui demande tout simplement d'être là. Et en fait,
comme dans un tableau.
Exactement, comme dans un tableau. Et c'est vrai que moi, j'avais envie qu'il y ait une atmosphère, et ce que je vais dire, c'est vraiment pas une bonne publicité pour mon livre, mais une atmosphère un peu poisseuse. C'est-à-dire qu'on se dise, mon Dieu, ce domaine, cette forêt, les animaux et les gens qui y vivent collent à la peau. Et il faut que cette jeune femme qui arrive là et qui passe de son père à son mari, de la maison de ses parents à la maison de son époux, soit complètement, jusqu'à un certain moment du livre, figée dans cette espèce de décor qui est à la fois féerique, magique, mais aussi infernal.
Inconfortable.
Oui.
Alors, pour ceux qui ont déjà regardé La Grande Librairie, et je pense que c'est le cas d'une majorité parmi vous, vous avez sûrement déjà vu Cécile Coulon, vous avez vu qu'elle a déjà été invitée plusieurs fois par François Bunel, et peut-être que vous vous souvenez qu'elle avait donné dans sa bibliothèque idéale Stephen King. Donc là, quand on parle de cette maison, d'une ambiance poisseuse, c'est une ambiance de thriller totalement.
Oui,
vous êtes happé par le polar, vous avez cette veine-là qui...
Oui, je pense que moi j'ai été assez biberonnée d'abord à l'écriture fantastique de Stephen King, et ensuite j'ai compris que moi je ne suis pas capable d'écrire du fantastique, il faut être très très bon pour écrire de la littérature, de la fantasy ou du fantastique, et je me suis dit mais il faut que je garde en moi cet amour des lieux bizarres, et donc des gens bizarres qui va avec. Moi je trouve ça super les gens bizarres, donc s'il y a des gens parmi vous, vous vous sentez pas bien dans la vie, moi je vous aime beaucoup et je veux bien discuter avec vous après, mais je trouve ça intéressant, et c'est le grand luxe de l'écriture et de la littérature, c'est d'avoir du temps et d'avoir de l'espace pour s'arrêter sur des lieux et des personnages qui dans la vie nous ferait peur, ne nous attire pas et nous repousse. Or, quand on écrit des livres, on peut écrire des centaines de pages sur une tempête de neige, par exemple. Dans la vie, s'il y a une tempête de neige, a priori, vous n'avez pas envie d'être au milieu. Alors que dans un livre, vous avez envie de savoir ce que c'est. Et là, c'est pareil pour cette forêt du Jura.
Alors, deuxième raison qui rend cette position assez inconfortable pour Aimée, c'est qu'elle elle vient en numéro 2. C'est la deuxième épouse. Bien qu'elle soit très jeune, bien que Candre lui-même ne soit pas si vieux que ça, elle sait qu'elle arrive en deuxième position. Il a été marié une première fois à Alette, un prénom qui commence aussi par un A. On les sent assez semblables. Le mariage a duré 6 mois à peine. Elle est morte de la tuberculose. A priori, un mystère l'enveloppe. Ah, François Bunel est là. On va l'accueillir.
Elle est bracassée, puis elle est cassée.
On s'est permis de commencer.
Mais vous avez bien fait, bonjour.
Alors, je parlais de l'ambiance de ces deux romans qui sont des personnages à part entière. J'étais sur le roman de Cécile Coulon, Seul en sa demeure, avec cette maison qui était digne d'un film de Stephen King. Et je rappelais au public que Cécile Coulon avait été votre invitée plusieurs fois dans La Grande Librairie, et que pour ceux qui avaient pu regarder La Grande Librairie, la 500e de la bibliothèque idéale, Cécile Coulon avait nommé Stephen King, et qui avait un peu ce côté thriller, ce côté roman presque de roman d'horreur qui s'installe dans le roman de Cécile Coulon. Donc j'allais vous poser la question par rapport à Alette, hein, puisque Aimée est la numéro 2, donc ce qui rend sa position encore plus inconfortable. Elle a envie d'en savoir plus sur Alette, et Candre ne veut pas lui en dire trop au départ. Donc elle a ce syndrome que vous appelez le syndrome de Madame Winter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on l'a appelée ainsi ?
En fait, Aimée, quand elle arrive, elle a une espèce d'ennui qui vient parce qu'elle elle est censée être la maîtresse de maison, mais on ne lui donne pas on va dire, l'espace nécessaire pour faire ce qu'elle doit faire dans une maison parce que quelqu'un le fait à sa place. Donc du coup, elle va se poser des questions sur cette femme précédente qui restait là 6 mois, mais il y a encore ses robes, il y a encore ses draps. Quand on l'habille, elle voit cette ancienne femme dans le miroir à la place de son visage, et donc elle va commencer à enquêter sur la mort de cette précédente épouse, et elle va sentir que cette femme d'avant est en train de l'habiter aussi, elle. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu ce livre que moi j'adore, qui s'appelle Rebecca, de Daphné du Maurier, qui est quand même un très très grand roman et une très très grande autrice que je vous conseille de lire ou de relire, parce que c'est quelqu'un qui sait mener un suspense. C'est un film d'abord qui m'a beaucoup marqué et où je me suis dit, la seule, en tout cas pour Selon sa demeure, la seule manière d'aller loin dans l'âme de quelqu'un, c'est de savoir qui était là avant. Et c'est comme ça que j'ai construit mon histoire.
Marie Vintras, je vais enchaîner avec vous avant de donner la parole à François Bunel, qui pourra nous expliquer pourquoi est-ce que il vous a invité et pourquoi vous faites partie des nouvelles voix, comme je l'ai dit au départ. Alors Marie Vintras, c'est un nom, un patronyme qui est un pseudo. Racontez-nous un peu l'histoire de cette femme qui se cache aussi derrière un homme. C'est-à-dire qu'on est dans un entonnoir là.
Surtout que je suis à l'opposé de Cécile qui a commencé à écrire, enfin qui a commencé à écrire il y a longtemps, mais qui a publié son premier roman à 16 ans. Et moi je me retrouve primo-romancière à 50, chercher l'erreur. Donc moi j'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup tardé. Le pseudonyme, oui, je voulais un pseudonyme d'abord sans homonyme, ce qui est quand même plus pratique, éviter que quelqu'un se présente un jour en disant « mais Marie Vintras, c'est moi ». Et tant qu'à avoir un pseudonyme, autant que ce soit... oui, c'est une longue histoire. J'avais envoyé sous un pseudonyme masculin, avec des tas d'interrogations sur l'écriture masculine, féminine, est-ce que ça existe ? Bon, maintenant, ça me paraît un peu couillon. Et donc, j'ai cherché un pseudonyme féminin. Et voilà, cette figure de femme oubliée, comme il y en a des tonnes, Caroline Rémy, première femme grand reporter, première femme rédactrice en chef, est totalement oubliée. Une sorte de Florence Aubenas du 19e siècle. Elle descendait dans les mines.
Mais qui, grâce à vous, revient à la surface.
Oui, il y a une biographie qui vient de sortir, une nouvelle biographie qui vient de sortir de Caroline Rémy. Et c'est une femme incroyable, vraiment incroyable, suffragette, fusarde, abandonnant son mari après une nuit de noces, lâchant ses enfants. Non, voilà, non, c'est pas super comme modèle, d'accord, mais voilà, au 19e siècle. au 19e siècle, en tous les cas, elle était pas dans les clous.
Alors, Blizzard, votre roman, qui est aussi qui s'ouvre sur les premières pages dans une ambiance également extrêmement poisseuse, c'est le mot que vous aviez utilisé, inconfortable. Quand on le lit, on est content d'être derrière la vitre, installé confortablement dans un canapé, hein, parce que donc on est en pleine tempête dans l'Alaska. Et les deux héros font ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire qu'ils sortent. Une femme, un petit garçon de 10 ans. Et le temps de refaire son lacet, elle lâche la main de l'enfant et quand elle se relève, l'enfant a disparu. Et la tempête est telle qu'on ne voit rien, le sol, l'air est tout confondu dans un grand coton blanc. Et puis c'est un roman choral, donc en fait on va avoir plusieurs personnages qui vont partir à sa recherche, tous avec des intentions plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, même parfois très mauvaises. C'est peut-être l'occasion de régler quelques comptes, cette tempête, que certaines personnes disparaissent. Est-ce que ce lieu, cette ambiance, d'abord, est-ce que vous le connaissez réellement ou est-ce que c'est totalement de la fiction ? Est-ce que vous êtes projeté en Alaska après y avoir vécu vous-même ?
Non, je n'ai aucune envie d'aller en Alaska, je n'y suis jamais allée. C'était, quand j'étais enfant, le mot Alaska, c'était une sorte de formule magique, un abracadabra.
Un exotisme à l'envers.
Voilà, un truc très très loin, très très froid, très très hostile. Donc en cherchant où il y avait du blizzard, l'Alaska, ça clignotait dans mon cerveau, biberonné de littérature nord-américaine. Donc le Yukon, j'y ai pensé 3 secondes, mais Yukon, déjà, ça ne va pas dans le... ça va pas, le nom ne va pas. Donc voilà, l'Alaska, c'était justement ce lieu dont je n'ai pas une idée précise, n'y étant pas allée. Donc un lieu où tout est possible, un lieu de conte de fées qui ne serait pas un conte de fées, en fait, qui serait plus un lieu de cauchemar. Voilà, tu aimes les personnages bizarres, les gens bizarres. Moi, j'aime les gens bancals, parce qu'il y a plein de gens bancals dans la vie. Donc comment les gens arrivent à tenir, qu'est-ce qu'ils utilisent comme artifice pour se redresser un peu. Donc voilà, moi j'ai une galerie de gens bancals, mais probablement dans ton livre, ça doit être...
Et quand je disais que Cécile Kons était peut-être inspirée ou inconsciemment des livres de Stephen King qu'elle avait pu lire, vous avez comme ça des modèles, une littérature américaine, des thrillers qui ont pu aussi porter leur marque sur votre premier roman?
Non, parce que j'étais très embêtée au début par l'étiquette roman noir. Alors, il y a une libraire qui m'a dit « c'est un roman noir parce que la morale n'y a pas sa place ». Et je me suis dit « c'est pas faux, ça c'est vrai ». Mais le mot thriller, page-turner, c'est peut-être le grand malentendu avec les lecteurs, c'est que finalement ils y trouvent quelque chose qu'on ne pensait pas y avoir mis. Donc j'ai lu des tas de romans policiers, je trouve que c'est aussi impossible, inatteignable pour moi d'écrire un bon policier. Non, c'est plutôt cette espèce de... D'abord le roman choral ou polyphonique, parce que je ne crois pas qu'ils chantent tous en même
roman
temps.
Roman intimiste aussi, parce que tout se passe dans la tête.
Oui, mais c'est vraiment Russell Banks. Enfin, à chaque fois, je cite Russell Banks, parce que quand je lis Russell Banks, il y a cette espèce de discours qu'on se tient à soi dans des termes qui sont des termes familiers, de langage courant. Et c'était une littérature extrêmement réconfortante pour moi, qui n'était pas écrasante. Et qui est magnifique. Enfin, voilà, moi, je trouve ça très beau. J'y trouve mon compte. Il y a des gens qui me disent, oui, Russell Banks, oui, je l'ai lu, mais bon. Voilà, c'est juste que moi, ça m'a parlé. Il y a quelque chose qui a vibré particulièrement avec lui.
Alors, j'imagine que François Bunel, vous aussi, vous avez quelque chose qui a vibré en lisant le roman de Marie Vintras et celui de Cécile Coulon que vous avez réinvité maintes fois. Pourquoi les avoir choisis aujourd'hui pour cette table ronde sur les nouvelles voies?
Bonjour. Eh bien, parce que l'un des grands plaisirs de la lecture, et je pense aussi quand on fait une émission sur la lecture, parce que la Grande Librairie, après tout, ce n'est pas une émission littéraire, c'est une émission sur la lecture, qui a un seul but, c'est essayer de donner encore plus envie de lire. C'est de découvrir la découverte des... J'ai toujours pensé qu'en fait, on évoluait dans une forêt, un peu comme les forêts de chez Cécile Coulon, ou alors celles qu'on a chez Marie Vintras, qu'on peut imaginer dans le blizzard, parce que en Alaska, c'est vrai, vous avez raison, on ne sait pas très bien ce qu'il y a, donc on peut imaginer des espaces blancs, des banquises, et puis tout à coup une gigantesque forêt de fer recouverte de givre. Et je crois que les livres, les bibliothèques, les librairies sont un peu des grandes forêts. Vous avez des chênes énormes, massifs, qui s'appellent Russell Banks, Cormac McCarthy, William Faulkner, nos grands classiques. Et puis, vous avez des petits arbres. Vous voyez, c'est les 600 romans de rentrée littéraire qu'on reçoit chaque fois. Et comme maintenant, je suis un très vieil animateur d'une vieille émission, j'ai le privilège, au bout de 17 ans, d'avoir vu chaque année les petites pousses qui ne résistaient pas à la force du vent, à la force de l'attraction. Et puis, celles qui... grandissait un peu, continuait de résister, s'implantait, devenait peu à peu des tilleuls ou des ormes ou des frênes, et puis prenait la forme d'un chêne maintenant. Alors c'est le cas de Cécile, parce que...
Franchement, je me suis dit, en fait, quand Mac McCarthy, c'est un chêne, et nous, on est des bonsaïs, quoi.
Ouais.
Mais merci d'avoir... Je suis gentil.
Mais au début, tout le monde est un bonsaï, et en réalité, on grandit. Non, ce qui me faisait plaisir, c'était d'aller chercher depuis toujours les nouvelles voies. Ouais, mais j'imagine que vous aussi, c'est-à-dire que bien sûr, on se réconforte. Enfin, on se réconforte, c'est pas le cas de le dire, c'est pas le mot. Mais on va chercher les balises, les phares, les chênes dans la forêt. Bon, c'est très bien. Et dès qu'on aime la littérature, on se dit, mais c'est qui ce nouvel auteur? C'est quoi ce nouvel écrivain? Le titre du livre, le nom de l'écrivain vous attire, et le plaisir de découvrir est un des grands plaisirs de la lecture. Donc c'est vrai que depuis le début, depuis la première émission de La Grande Librairie, je me suis dit, il faut que ce soit une émission dans laquelle on fasse découvrir des premiers romans. Pour Cécile, c'était pas tout à fait le premier roman, ça devait être le deuxième ou le troisième.
Vous aviez 16 ans.
pour votre elle avait, le, je crois qu'elle avait premier, 19 ans.
Quand je suis arrivée sur les, enfin, quand je suis arrivée pendant cette émission, j'avais 20 ans.
20 ans. Ouais.
Et donc c'était, oui, c'était le troisième. Absolument.
Troisième roman. Mais j'avais déjà lu, moi, celui d'Av. Le premier chez Viviane, Ami.
Méfiez-vous des enfants.
Ouais, c'est ça. Et là, je me dis, on fait des paris quand on est lecteur. Des paris avec soi-même. C'est des paris journalistiques aussi. Mais c'est vraiment des paris d'admirateur. Moi, quand je lis, j'aime admirer. Et donc, je lis il y a très longtemps le troisième livre de Cécile, que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler de Cécile Coulon. Même chose pour Marie Vintras. Je reçois tous les livres de la rentrée. Je me jette généralement sur les premiers romans, avant de commencer par les chaînes. Je lis les 20 premières pages, 20-25 premières pages de tous les premiers romans qui sortent, tout le temps. J'adore ça. C'est formidable, parce que vous risquez de tomber sur des choses totalement périssables, et avec un peu de chance, vous avez une pépite. Et il y a toujours, toujours, souvent en tout cas, des pépites, qui sont à des degrés variables selon les années. Et donc, je trouve le blizzard, comme j'avais trouvé les livres de Cécile. Et je me suis dit, mais oui, allons chercher ces nouvelles voies. Mais dans les nouvelles voies, attention, c'est pas seulement les premiers romans ou les troisièmes romans qui vous ont plu. C'est est-ce que derrière, il y a une voie ? Est-ce qu'il y a autre chose qu'un livre de saison ? C'est déjà très bien, vous me direz, un livre de saison, un bon premier roman, c'est formidable. Mais alors, est-ce qu'on se dit, ah, et un écrivain, vous le sentez, non ? Assez vite, au bout de quelques pages. Soit c'est plaisant, c'est déjà bien. Soit, non, c'est pas plaisant, c'est dérangeant, c'est parfait, c'est juste, plus exactement, pas forcément parfait, c'est juste. Et là, il y a une voix. Et je crois qu'un écrivain, c'est une voix. Et là, en l'occurrence, des écrivaines, c'est une voix. Donc j'adore ça, c'est un de mes exercices préférés, c'est peut-être la raison d'être de la grande librairie, qui n'était pas seulement d'interviewer Philippe Roth et Amélie Nothomb, même si je les adore, mais qui était aussi d'aller découvrir celles et ceux qui seront les Philippe Roth et les Amélie Nothomb de demain. Et donc on fait des paris sur l'avenir. Donc voilà, la raison, c'est ce point commun. Et puis je me suis rendu compte après qu'il y avait un autre point commun, c'est que dans les nouvelles voies, ce que j'essayais de faire depuis 15 ans, pendant 15 ans, c'était aussi de rappeler que, bon, la littérature qui console, c'est pas mal, c'est sympathique, si tant est que ça console vraiment. Mais celle qui déroute, celle qui dérange, celle qui fait que vous sortez de la zone de confort, comme on dit, et que vous évitez de prendre la glissière de sécurité en pleine face, celle-là, elle m'intéresse beaucoup. Or, Cécile est passée maître S dans l'art
de
l'inconfort. Ouais. Mais comme tous les écrivains que j'aime, moi, Marie citait Russell Banks. Bon, bah, quand vous lisez De beaux lendemains, qui est un chef-d'œuvre, c'est pas franchement le genre de livre qui va vous réconforter. Plus exactement, si, au final, oui, ça va vous réconforter avec une idée, c'est que tout peut arriver, surtout le pire, donc mieux vaut avoir lu. Ça nous donne 2-3 scénarios qui nous permettront de ne pas être pris au dépourvu quand le blizzard fut venu. Et donc là, elles sont excellentes. C'est là où il y a des nouvelles voies. Pas seulement un nouveau livre. Il n'y en a qu'un pour le moment, de Marie. Moi, j'attends le prochain avec beaucoup, beaucoup d'impatience. C'est vrai qu'immédiatement, je me suis dit, alors là, on tient un écrivain, une romancière, une autrice, appelez ça comme vous voulez, mais qui se planque derrière. Comment est-ce qu'elle a écrit ça ? Comment tant de maîtrise et de maturité, et j'aimais bien cette idée, c'est que les nouvelles voies puissent éclore et naître à n'importe quel âge. C'est un des grands tabous aussi de la littérature. L'âge du capitaine. Oui. L'âge du capitaine. Et je reprends le titre précisément aussi de Cécile. C'est-à-dire que soit on considère les jeunes filles qui écrivent comme des Minou de Rouet ou des Françoise Sagan, avec un rien de condescendance et de mépris, et je me souviens que ça a été un peu le cas parfois pour Cécile. Soit on considère avec un rien de condescendance et de mépris les femmes qui, à 50 ans, ont le courage de tout remettre en cause, y compris leur métier, pour lancer un premier roman qui fait un bruit absolument incroyable dans le marécage de la rentrée littéraire. Donc je crois qu'il y a une leçon de courage à avoir quelqu'un d'extrêmement jeune qui est une nouvelle voix et qui cesse d'être jeune, parce qu'il faut pas considérer Cécile comme la petite fille qui a débuté à 16 ans. Ce serait absurde. On peut dire ton âge ?
J'avance doucement vers la retraite des sportifs.
Ouais.
Donc j'ai 32 ans.
Voilà. Mais Aujourd'hui, moi, je ne vois plus Cécile. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur, d'ailleurs, de me dire « Ah, tiens, c'est la petite Cécile Coulon ». Mais non, pas du tout. Au troisième roman, au quatrième, on prend de telles claques. La voix qui était nouvelle s'affirme tellement. Alors aujourd'hui, ce n'est plus une nouvelle voix. C'est une nouvelle voix par rapport à 15 ans de grande librairie. Voilà. Et je suis heureux, heureux. Pas du tout fier, il n'y a aucune fierté à voir. Mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est quand quelqu'un que vous admirez devient un écrivain très important. Vraiment. Et c'est pas du tout un bonheur d'ego en disant « Ah, je l'ai découverte, on s'en fout ». Non, c'est pas ça. Ça justifie les heures passées à se ronger les sangs en lisant ses bouquins. Et à se dire « Mince, qu'est-ce qui va se passer ? Comment va-t-elle me cueillir ? Comment va-t-elle m'attraper ?» D'autant qu'elle, comme Marie, vous allez toutes les deux chercher ce qui est... Je trouve que toutes les deux actualisent les contes de notre enfance. C'est-à-dire qu'elles prennent, me semble-t-il, vous savez ce que Grimm, Perrault et les autres savaient très bien faire, nos peurs les plus profondes, tapis comme des démons dans un endroit qu'on a réussi à mettre sous le boisseau, elles vous sortent tout ça sur la table et débrouillez-vous avec. Et c'est une relecture du conte. Et donc voilà, ces nouvelles voix, moi, m'intéressent beaucoup et j'avais envie de, vous voyez, de les réunir, de les rassembler, de montrer aussi que c'était ça, une vie de lecteur, de lectrice. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous pensent ça également. C'est pas seulement lire pour aller chercher ceux qui nous rassurent et les chaînes, c'est aussi découvrir. C'est aussi partir à la rencontre de quelqu'un ou de quelque chose qui peut-être demain va devenir le chêne. Et le bonsaï a bien grandi tout de même, hein, Cécile.
Non, ce que je trouve assez... on se disait ça avec Marie juste avant que de commencer cette rencontre, c'est qu'en fait, on a sorti donc nos deux romans en même temps, à la même rentrée littéraire, et on a fait notre tournée en librairie où on se suivait. C'est-à-dire que moi, j'arrivais dans une librairie et parfois, c'était des librairies vraiment planquées. Le genre de librairie, si jamais le train, il a du retard, bah, vous n'arrivez pas à la librairie, quoi. Et je disais, alors, qui est venu ou qui va venir ? Et il y avait toujours Marie Vintras.
Et j'avais exactement la même chose à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. On ne dîne plus après 20h30, on erre dans les... Voilà. Mais oui, mais Cécile, elle est venue au volant de sa bagnole. Cécile, elle vient toujours. Voilà, les libraires, c'est Cécile, elle vient toujours, elle joue le jeu. Et oui, ça, je pense qu'on a en commun...
C'est une phrase de son roman, les chevaux passent toujours, il faut leur faire confiance.
Oui, les chevaux passent toujours, et les voitures passent.
Est-ce que la professeure de flûte traversière, va réussir à passer ?
Absolument, oui.
Et elle dit, ne vous inquiétez pas, les chevaux...
Les chevaux passent toujours. Et il y a une autre anecdote aussi, qui date d'il y a 16 ans. À l'époque, il y en a parmi vous qui lisent La Montagne. Qui lit La Montagne ? C'est bien. Et ceux qui ne lisent pas La Montagne, vous devriez, car pourtant que La Montagne est belle, quand même. Je suis obligée, parce que si Jean Ferrat était une marque, je serais actionnaire de cette marque. Mais il y a 16 ans, Russell Banks faisait les chroniques le dimanche de La Montagne. Et donc, ce qui était un peu fou, il était venu à Clermont-Ferrand pour faire une conférence, quoi. Et moi, je lisais... À cette époque-là, je me souviens, c'était sous le règne de Beaune. J'ai adoré ce roman. C'était super. Et donc, le premier écrivain que j'ai rencontré et à qui j'ai dit « J'adore ce que vous faites !» C'était Russell Banks, à Clermont-Ferrand, dans les locaux de La Montagne, qui ne sont plus les mêmes locaux, d'ailleurs, maintenant. Et je me souviens toujours, avec un anglais que j'ai toujours pas, je lui dis que je trouve ça incroyable et que moi aussi, j'ai envie d'écrire. D'ailleurs, je vais publier un livre dans 2 mois. Et il m'avait dit... Parce qu'il y avait un professeur d'anglais qui faisait la traduction à côté. Et il m'avait dit, si vous êtes encore là dans 10 ans, ça veut dire que ça a du sens, ce que vous faites. Et on s'était retrouvés sur le plateau de la Grande Librairie en 2014. Je ne sais plus quel était le livre. Et je m'étais dit, c'est fou à quel point cet homme-là... C'est étonnant qu'on en parle là, parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle « Au Canada ». Et il a peut-être 80 ans aujourd'hui, Russell Banks. Et c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien écrit. C'est toujours aussi à la fois accessible et émouvant. Et c'est toujours étonnant quand on est avec une autrice qu'on connaît, on se connaît pas. Enfin, on s'est jamais rencontré avant. Et on se dit, en fait, on a des lieux, des façons d'écrire. Mais on a aussi un auteur ou une autrice qui a été extrêmement important à un moment décisif de l'écriture. Voilà,
je suis verte de jalousie. J'espère aller le voir au Festival américain.
Mais vous aurez peut-être votre moment, Russell Banks.
Et il n'est pas tout jeune et pas pas en grande forme, donc j'ai peu d'espoir, mais vraiment c'était, bon, j'ai pensé à tout, faire le siège de son éditeur français, américain, pleurer, pleurnicher, au moins, voilà, je sais pas, je me dis, je pense que Cécile qui a plus de recul, et plus, je me dis, un écrivain qui reçoit une lettre d'une petite pousse, un pépin qu'on vient de planter dans la terre, et qui lui dit, bah, j'ai écrit grâce à vous, je pense que ça doit quand même faire quelque chose, mais je suis pas sûre que la lettre arrive un jour...
J'aime bien cette idée de décennie, de 10 ans, c'est-à-dire que c'était une manière de vous dire, oui, si vous serez encore là, tous vos espoirs, votre ambition sera ancrée dans le réel. Peut-être que les nouvelles voies, c'est sur aussi la durée, et j'avais envie de donner comme définition, pour compléter celle de François Bunel, que c'était aussi quand on reconnaît la musique, quand, dans le style, quand on est capable, en ouvrant le livre, de se dire, j'ai déjà entendu cette petite musique-là, cette voix-là.
Ou pas. Ou de découvrir, parce que là, en l'occurrence, que ce soit pour Marie ou Cécile, il se trouve que les univers sont proches, c'est vrai, mais ce sont des musiques que je n'ai pas reconnues. Bien sûr, on voit, d'où ça vient, et encore. Bien sûr, on sent qu'elle a lu Stephen King.
Par ailleurs, vous ne l'avez pas reconnue par rapport à d'autres auteurs, mais chez Cécile, est-ce que vous la reconnaissez?
J'ai reconnu tout de suite sa voix, ouais. Sa musique, mais ce n'était pas une musique connue, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être ça d'ailleurs des nouvelles voix, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, il y a, et ce n'est pas grave, hein, c'est absolument pas un jugement de valeur, mais il y a beaucoup, beaucoup de livres, parfois des bons livres, qui font la même musique que celle de nos aînés. Enfin, vous savez, après tout, Mozart, il faisait la même musique que Salieri. Qu'on le veuille ou non, écouter aujourd'hui les enregistrements de Salieri, c'est pas mal du tout. Évidemment, c'est pas Mozart, il n'y a pas le génie. Mais c'est la même musique au départ, c'est le même genre de musique. Donc moi, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais la nouvelle voix, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit là toutes les deux, c'est que c'est tout à coup une musique qui explose dans vos tympans. C'est la même chose sans doute que ce que certains ont dû découvrir quand ils ont entendu les Beatles pour la première fois. On connaissait le rock, mais tout à coup... Ah non, il y a Lennon, McCartney, George et Ringo. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est fascinant pour nous. C'est-à-dire qu'on pose la question. Mais elles ne savent pas répondre, d'ailleurs. Je pense que c'est très difficile de savoir. Tu sais, alors, quelle est ta voix? Quelle est votre voix? Comment est-ce que vous l'avez trouvée, cette voix? Ça, pendant 15 ans, je l'ai embêté avec ces questions-là. On peut recommencer.
Non, mais je pense... Enfin, je donne une réponse juste, parce que... pour faire ma maline, clairement. Mais je pense qu'on... On ne cesse jamais de la trouver, sa voix, et de la modifier, et aussi d'avoir des manuscrits qui sont soit refusés, qu'on reprend, et donc de travailler sa voix comme un musicien, un chanteur ou autre. Et aussi, moi j'ai compris un truc en lisant Marguerite Yourcenar, une petite jeune, en lisant Alexis ou le traité du vin combat, qui était le premier roman de Marguerite Yourcenar publié en 1930, je crois. Et où je m'étais dit en lisant ça, mais qu'est-ce qu'on écrit après ça ? Et je me souviens d'un professeur qu'en plus je détestais en prépa, qui m'avait dit une phrase que j'ai adorée, qui m'a dit, mais en fait, il faut arriver, quand on lit un livre incroyable pour soi, il faut se dire, comme ça a été fait, maintenant je peux faire ce que je veux, puisque ça existe. En gros, se défaire de ce qu'on adore. Et on n'est pas en atelier d'écriture, mais s'il y avait un atelier d'écriture sur comment trouver sa voix, c'est se défaire de ce qu'on adore. Enfin, je ne sais pas, Marie, si c'est...
Et nouvelle voie peut-être aussi parce que vous êtes allé très loin de votre vie, de vos vies. Vous n'êtes pas dans l'autofiction. Alors c'est vrai que dans la littérature actuelle, c'est un mouvement assez à la mode.
Et on a fait la même grimace, c'est pour ça que...
Peut-être que c'est quelque chose que vous avez... Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Est-ce que, surtout pour un premier livre, est-ce que vous étiez dit, non, j'écrirai sur tout, sauf sur ma vie? Je veux aller aussi loin que possible de moi-même.
Enfin, franchement, je ne vais pas porter de jugement non plus, mais pour considérer qu'on a une vie tellement intéressante qu'il faut qu'on l'expose à tout le monde, je ne sais pas. Moi, ça a parlé de moi, non. Pourtant, je pense que j'aurais des sujets hein, qui pourraient être à peu près aussi sympas que... Voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre, mais j'ai une famille qui est compliquée, donc ça ferait... Je pourrais remplir une bibliothèque hein, en parlant de ma famille, mais c'est quoi l'intérêt, justement? En plus, il faut écrire... Et il faut que ça, voilà, je pense qu'on écrit parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a besoin d'écrire, parce qu'il y a une vertu qui n'est pas thérapeutique, puisqu'on ne se soigne pas en écrivant, mais c'est quelque chose, je suis sûre que Cécile et moi, on écrit parce qu'on n'a pas d'autre choix, en fait. Il faut, moi, j'ai mis un couvercle dessus et je n'ai pas écrit pendant des années, mais de toute façon, le couvercle tressautait. Et après, oui, il est parti, je ne le retrouve plus. Mais après, le roman qui se passe à Paris, au carrefour de l'Odéon, avec Paul, Julie, Pierre, ils bossent dans une start-up, moi, ça me... Rien, ça, c'est un encéphalogramme plat, rien. J'ai pas envie de parler de ça, moi, j'ai envie, voilà. Je n'ai pas encore lu le livre de Cécile, mais oui, là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller retrouver cette forêt, cette obscurité. En plus, on a comme point commun, il me semble, là, d'avoir... dans les deux livres, d'avoir finalement le lieu de l'angoisse, le lieu de l'horreur, c'est la famille. Enfin, une famille qui est un peu au sens large chez moi, puisque ce sont des...
La famille et la forêt.
La famille et la forêt.
Le grand
donc
espace.
C'est finalement le pire endroit, c'est peut-être la famille. Bon, ça, c'est un autre sujet.
Vous voyez bien que c'est autobiographique.
Et qu'est-ce qu'il y a de jouissif à écrire aussi sur de la violence, même si c'est une violence rentrée? Qu'est-ce qui peut être aussi très intéressant pour la romancière que vous êtes maintenant?
Moi, franchement, j'ai adoré écrire les pages.
C'est un défouloir?
Non, pas défouloir. C'était très les pages Cole, qui est un sale type. On peut dire que c'est vraiment un sale type. Et c'était un plaisir d'écrire ces pages sans double négation avec ce type qui est raciste, misogyne, infect et bien d'autres choses. Ça, c'était très... Voilà, c'est pas moi, donc je peux faire n'importe quoi. C'est un paquet de bonbons. On ouvre un paquet de bonbons, on pioche ce qu'on veut. Et puis, les moments violents... D'abord, la vie est violente, donc c'est pas quelque chose de... Moi, quand j'étais petite, je lisais des histoires de pirates, des histoires de garçons. Je suis la cinquième d'une famille de cinq filles, donc j'avais un petit peu un poids de pourquoi je ne suis pas née garçon. Donc je lisais des histoires de garçons, de pirates, la bibliothèque rose, c'était dégueulasse. Je jetais les bouquins, ça ne m'intéresse pas. Le club des cinq, qu'est-ce que c'est que ça? Donc finalement...
Le club des cinq, c'est quand même, pardon mais de vous couper, mais c'est quand même l'une des plus grandes atteintes à la liberté de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec des gamins parfaits? Non, mais enfin, ça n'existe pas. Ça devrait être classé au rayon science-fiction. C'est vrai.
Et vous, Cécile Coulon, est-ce que vous avez, quand vous écrivez justement sur des thématiques, des personnages très éloignés de vous, est-ce que c'est aussi une manière de se libérer, d'avoir une imagination qui n'est pas bridée?
Je trouve, Marie a dit quelque chose... que je trouve d'une justesse, c'est parce que je ne parle pas de moi, du coup, je peux faire ce que je veux. Et vraiment, c'est une très belle façon d'expliquer ce que c'est que la fiction. Et en plus, aujourd'hui, vraiment, le dernier espace de liberté d'expression absolue, c'est le livre, parce qu'il n'y a pas d'image, parce qu'on n'est pas censuré. Donc on peut faire ce qu'on veut. Si on peut faire ce qu'on veut, mais... Autant aller explorer des territoires, ça peut être géographique, des territoires d'imaginaire, des territoires où on... Et je reprends une phrase de Marie-Hélène Lafon que j'adore, qui dit « Bien sûr, je parle toujours de moi, mais je fais des nuages de fumée. » J'aime beaucoup cette idée de faire des nuages de fumée dans la fiction. Moi, j'ai aucun intérêt, en tout cas dans le roman, mais j'ai ma casquette à deux visières. Il y a la casquette de poète, poétesse, donc je peux raconter ma vie et ce que je ressens dans des poèmes. Donc dans le roman, j'ai vraiment... Si un jour je sors un livre, si un jour mon éditrice ose me dire oui sur un livre qui parle de moi, il faut que je change de maison d'édition. C'est certain. On a ce luxe de la fiction et du roman français, et j'espère pouvoir le garder longtemps, ce luxe, de pouvoir écrire, qu'on puisse écrire absolument ce qu'on veut, parce que justement, ça ne parle pas de nous.
Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que tu fais pas la maline, là?
Si. Mais vraiment, c'est mon métier.
Revenons à la source. C'est très bonne nouvelle émission littéraire.
C'est une très bonne émission littéraire. N'hésitez pas à écouter La Source sur France Inter, le dimanche.
Non, mais en fait, c'est intéressant parce que vous voyez, la négation est la première étape de la psychanalyse. Et donc, je me demande si nos deux nouvelles voix, en niant farouchement, vous avez vu, hein, non, mais on parle pas de nous, hein. Je me demande si elles ne sont pas en train de nous jouer le coup de la lettre volée. Mais bien sûr que si, elles parlent d'elles. Non,
mais c'est pour ça que
je... Est-ce que vous ne croyez pas, l'une et l'autre, au très sage, j'ai bien très sage, entre l'art et la vie? Finalement, même si vous ce que disait Marie-Hélène Lafon, que tu citais. Même si vous nous inventez des lieux très lointains, l'Alaska, où Marie n'a jamais mis les pieds, bien sûr, une forêt dans laquelle tu n'as jamais mis les pieds non plus. Ah oui, tiens, bah, ça commence. Si, oui, voilà. Est-ce que ça n'est pas, même dans les fictions les plus échevelées, les plus débridées, est-ce qu'on ne met pas en réalité, peut-être de manière à l'inverse, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous se révèle, tout ce qui est vous?
Bah, du coup, ces fameux nuages de fumée
voilà.
qu'on fait, enfin, je crois, hein, je ne veux pas parler à la place de Marie, mais le pouvoir de l'imaginaire là-dedans, c'est-à-dire de ne jamais être au premier degré de sa propre vie.
C'est ça.
Et donc aussi de prendre du recul sur ce qu'on vit. Alors en plus, moi, je vais pas vous dire, la famille, c'est l'enfer, mes parents sont là, quoi. Enfin, franchement, c'est jamais... Vraiment, on en reparlera dans 2 heures, il y a une autre rencontre, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Petit bonsaï a bien grandi.
Ouais, voilà. je crois que la grande force de l'imaginaire, et je sais pas, on pourrait prenons la saga Harry Potter, évidemment, quand on lit Harry Potter, on dit, elle n'a pas vécu ça. Elle ne se promène pas à dos d'hippogriffes et elle ne fait pas des tours de magie. Bien sûr que non.
Mais qu'est-ce que ça dit d'elle?
Mais ça dit d'elle que la famille, encore une fois, est son sujet principal parce qu'elle a des choses à dire sur ce sujet-là. Mais peut-être, et là encore, je pense qu'avec Marie, on est complètement d'accord sur la question de cette autofiction, c'est s'éloigner du premier degré absolu pour proposer une histoire qui peut parler aux aventuriers comme aux aventuriers du canapé. Je crois.
Je vous laisse cogiter sur cette question très ouverte. Peut-être que vous allez pouvoir continuer la conversation en tête à tête avec les personnes qui sont dans la salle, qui vont aller faire dédicacer leur livre. Parce que malheureusement, on me demande de rendre la salle.
Juste une question. C'est quoi le prix du litre d'essence, Cécile?
Ah, le prix du litre d'essence aujourd'hui?
Oui, t'as commencé.
Alors,
par
à
ça
l'ère
tout
de la Corrèze, à l'ère de la Corrèze,
c'est une blague.
Le SP95, il est à 2,10€, donc ne le prenez pas là-bas. Vraiment, voilà.
C'était pour boucler
la boucle. La boucle est bouclée, parfaitement. On expliquera à François. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les autrices sur leur stand.